aucun croyant, aucune assemblée locale ne devrait oser s'engager dans ces activités sans un objectif. Page 123. Précis en vue. L'apôtre Paul dit « Je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air 1 Corinthiens 9, 26. » Quelle fut la réponse de Dieu à ce jeûne? La Bible dit « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. » Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas Genèse 3, 10. Nous savons que, normalement, Dieu ne se repent pas. La Bible dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Cependant, il y a des circonstances spéciales, comme celle à laquelle il fit face, avec le peuple de Ninive, où toute une nation, homme et bête, se repent en revêtant le sac et en jeûnant. Dans de telles circonstances, Dieu, dans sa miséricorde infinie, se laisse convaincre par leur sac, leur jeûne, leurs larmes et leur repentance, et il se repent. En se repentant ainsi, Dieu ne fait pas preuve de faiblesse, mais plutôt de beaucoup de force. La force d'un amour et d'une miséricorde infinie, le Seigneur, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Les conditions qui règnent dans le monde, aujourd'hui, ne sont pas différentes de celles de Ninive. Le péché règne partout et les hommes cherchent de nouvelles façons de commettre le péché. Cette génération a dépassé Sodome et Gomorre en péché et elle se prépare à être jugée. Nous sommes sur le point de subir le jugement de Dieu. Ce n'est pas seulement le monde qui est mûr pour le jugement. L'Église du Seigneur Jésus est loin d'être en bonne santé, le péché abonde, il y a de la tiédeur partout. La mondanité est à l'ordre du jour. La confusion doctrinale, le compromis et l'indifférence gagnent du terrain de jour en jour. Dieu a promis de juger. Faut-il qu'il accomplisse sa parole? Ne peut-il pas être contraint de se repentir? Page 124. Où sont les dirigeants de l'Église qui, comme le roi de Ninive, vont passer un éditeur et décréter le sac, le jeûne, les larmes et la repentance? Pourquoi cela n'est-il pas l'ordre normal des choses, même pour des systèmes religieux qui croient lutter pour annoncer tout le conseil de Dieu? Cela signifie-t-il que ceux qui devraient publier un jeûne et des pleurs sont eux-mêmes des adorateurs du Dieu nourriture? Quelqu'un se lèvera-t-il pour répondre à ce défi et contribuer à renverser le courant? Ninive fut sauvée. Allons-nous laisser notre monde périr ou allons-nous faire quelque chose? Jeûner pour briser une interférence spirituelle, Daniel 10, 2-15. Pendant que Daniel lisait le prophète Jérémie, il arriva au passage, qui disait « Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. » Jérémie 29, 10. Daniel consulta un calendrier et vit que le temps était écoulé. Alors il tourna sa face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel 9, 3. Il pria, confessant ses péchés et ceux de son peuple. Il plaida avec Dieu, disant maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Daniel 9, 17-19. En réponse à son jeûne et à sa supplication, l'ange Gabriel fut envoyé vers lui afin de l'assurer que Dieu allait bien accomplir sa promesse. Gabriel dit Daniel, « Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. » Daniel 9, 2027. Cependant Gabriel, non seulement lui donna l'assurance de l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais lui prophétisa. Page 125. Aussi la destruction du sanctuaire et de la ville, ainsi que le retranchement de son peuple. C'était là de mauvaises nouvelles pour Daniel, et il ne les prit pas à la légère. Il s'engagea dans un jeûne partiel de 3 semaines. La Bible dit en ce temps-là, « Moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. » Daniel 10, 2-3. Il voulait avoir plus de révélations, sur l'avenir de son peuple. Il ne reçut pas de réponse immédiate. Il fallut 3 semaines de jeûne pour recevoir la réponse. Pourquoi ? À cause d'un empêchement spirituel. La Bible dit : voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit : Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit : Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michal, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeure là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne cet temps-là, Daniel 10, 11-14. Ainsi, nous voyons la séquence suivante d'événements 1. Un homme découvre que la promesse de Dieu doit s'accomplir. 2. Il jeûne et prie. 3. Dieu envoie une réponse, mais annonce également le malheur de son peuple. 4. Cet homme s'engage dans un jeûne partiel et prie pendant 3 semaines. Page 126. 5. Dès le premier jour de sa prière et de son jeûne, Dieu envoie un ange pour lui apporter une réponse. 6. Un ange de Satan, le chef du royaume de Perse, s'interpose et empêche l'ange de Dieu de venir vers Daniel. 7. Le jeûne et la prière poussent Dieu à envoyer Michaël pour aider l'autre ange. 8. Michaël combat le chef du royaume de Perse et l'ange est libéré pour apporter la réponse à Daniel. Que se serait-il passé si Daniel n'avait pas jeûné et prié ? Eh bien, la réponse que Dieu avait donnée dès le premier jour où Daniel se mit à prier aurait pu ne jamais arriver à lui, quoique Dieu l'eût déjà donnée, ou encore elle aurait pu venir bien plus tard. Comme nous le voyons, l'esprit mauvais appelé chef du royaume de Perse était un esprit très puissant. Il retint le messager de Dieu pendant 21 jours, et même lorsque Michaël, l'un des puissants princes, arriva, il eut du mal à l'éliminer. Il ne fit que poursuivre le combat, afin que le messager fût libéré pour apporter la réponse à Daniel. Ainsi, nous pouvons conclure que, sans le renfort qui lui fut donné en réponse à son jeûne et à sa prière, Daniel n'aurait jamais reçu de réponse. Cela explique-t-il pourquoi un si grand nombre de prières faites selon les volontés de Dieu sont apparemment inexaucées ? Dieu a répondu, mais les réponses ne parviennent pas à atteindre les personnes concernées à cause des interférences sataniques, et puisque si peu de croyants jeûnent, le renfort nécessaire pour la libération finale n'est pas envoyé. Que Dieu ouvre nos yeux pour voir le monde invisible. Puissions-nous recevoir la révélation de ces puissances invisibles qui sont à l'œuvre. Que Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions voir les raisons pour lesquelles certaines personnes n'acceptent qu'une partie de la parole de Dieu et n'obéissent qu'en partie. Il y a des puissances invisibles à l'œuvre. Le diable est prêt à tout bloquer. L'apôtre Paul dit aussi : voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Page 127. 1 Thessaloniciens 2, 18. Il dit encore : car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens 16, 9. Je prie pour que ces vérités enflamment le cœur des enfants de Dieu et les transformant chrétiens qui jeûnent et qui prient. Que le Seigneur fasse cette œuvre en moi dans une nouvelle et plus grande mesure. Le jeûne en tant que moyen pour constituer des réserves spirituelles. Luc 4, 1-14. Après que le Seigneur Jésus fut baptisé d'eau et oint du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Premièrement pour jeûner, deuxièmement pour faire face à la tentation et pour la vaincre, troisièmement afin de retourner en puissance dans la Galilée pour accomplir l'œuvre de sa vie. Le Saint-Esprit conduisit d'abord Jésus dans un jeûne de 40 jours. Le Saint-Esprit savait que le Seigneur en avait besoin pour pouvoir vaincre les tentations qu'il devait rencontrer. Alors le Seigneur se soumit à 40 jours de jeûne. Il n'eut pas faim pendant ces 40 jours, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Luc 4, 2. Il eut faim et l'ennemi pensa qu'il pouvait maintenant l'assaillir et le vaincre. Satan ignorait une chose, c'est que le jeûne avait rendu Jésus spirituellement plus fort et l'avait mieux disposé à le vaincre. Le corps était plus faible qu'il ne l'était avant le jeûne, mais son esprit était plus fort et il vainquit l'ennemi en trois grands combats, au cours desquels l'enfer souffrit une terrible défaite. Si Jésus n'avait pas jeûné, nous nous demandons s'il aurait vaincu le diable aussi parfaitement et aussi rapidement que cela. Le jeûne ne lui permit pas seulement de surclasser l'ennemi dans ce conflit de tous les temps, mais il place à Jésus sur un nouveau plan de puissance spirituelle, car la Bible dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée le 4:14. Page 128. C'est comme si le jeûne l'avait introduit dans une expérience fraîche de la puissance de l'Esprit et il se maintint dans la plénitude de cette puissance pendant tout le reste de son ministère. Pourquoi certains croyants sont-ils tellement faibles qu'avant les moindres paroles de tentation du diable, ils sont déjà en train de ramper à ses pieds en signe d'abandon? L'une des raisons est que ces croyants ont refusé de s'approprier la puissance spirituelle nécessaire pour vaincre la tentation. Cette puissance résulte en partie du jeûne. L'apôtre Paul, au début de son pèlerinage spirituel et de son ministère, passa les trois premiers jours dans le jeûne Actes 9:9. Sachant ceci, nous demandons-nous pourquoi il alla plus loin avec Dieu que la plupart des chrétiens et pourquoi il accomplit bien plus que les autres dans son ministère pour le Seigneur? Jeûner en tant que ministère pour le Seigneur Luc 2:36-40 et Actes 13:1-3, la Bible parle de la prophétesse Anne. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle passa au moins 50 ans dans le temple, adorant le Seigneur nuit et jour. Comment l'adorait-elle? Elle l'adorait par le jeûne et la prière. Elle ne jeûnait pas parce qu'elle voulait obtenir telle ou telle chose de Dieu. Elle adorait le Seigneur en jeûnant. Elle ne le fit pas une seule fois. Elle le faisait en tout temps, nuit et jour. Qu'en est-il de l'Église des premiers jours? À Antioche, les dirigeants de l'Église servaient le Seigneur dans leur ministère et jeûnaient Actes 13:2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnaba et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés » Actes 13:2. Dieu parle beaucoup plus à ceux qui le servent dans le jeûne. Est-ce pour cela qu'il ne t'a point parlé? Est-ce parce que tu es avide de nourriture? Page 129. Quoique le Seigneur leur eût parlé, demandant que l'on mette à part Saul et Barnaba, ils ne se précipitèrent pas pour les envoyer. Ils continuèrent à jeûner et à prier, ensuite, ils les firent partir. Chaque aspect de cette affaire était spirituel. Il n'est pas étonnant que la Bible puisse dire d'eux qu'ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. Comment les missionnaires modernes sont-ils envoyés? Sont-ils envoyés après que l'on ait prié et jeûné, ou sont-ils envoyés après avoir organisé des réceptions, où l'on s'adonne à la gloutonnerie? Un coup d'œil attentif sur le zèle, la profondeur, la spiritualité, l'engagement, l'autorité spirituelle, l'ambition et le fruit des missionnaires modernes laissent penser que pour la plupart d'entre eux, le jeûne et la prière ne firent point partie de leur préparation et de leur envoi. Le chrétien moyen, produit par la plupart des missionnaires, est à peine préparé à jeûner, comme pour confirmer le proverbe qui dit « tel père, tel fils ». Que Dieu délivre l'Église de cela. Il importe peu que les missionnaires soient africains ou blancs. Une chose est certaine et je le dis avec humilité, trop peu d'entre eux suivent l'école du jeûne et de la prière. Le jeûne comme fête de joie, d'allégresse et de réjouissance, Zacharie 8:18-19, la Bible dit la parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais la vérité et la paix, Zacharie 8:18-19. Le jeûne devrait être un moment de réjouissance. Si nous jeûnons pour rendre un ministère au Seigneur, ne devrions-nous pas nous réjouir du privilège de le servir? Si nous jeûnons pour nous humilier devant lui, ne devrions-nous pas nous réjouir du privilège d'une communion renouvelée et plus profonde avec Dieu? Page 130. L'enseignement du Seigneur Jésus sur le jeûne, la plus grande leçon que le Seigneur nous ait donnée au sujet du jeûne et son exemple. Il jeûna pendant 40 jours. Par cet acte, il sanctifia le jeûne et l'établit comme un ministère à la gloire de son saint nom. Mais il ne se contenta pas de nous montrer l'exemple. Il donna aussi un enseignement sur le jeûne. Il dit que ses disciples allaient jeûner après son départ. Il n'est pas encore de retour. C'est donc encore maintenant le moment de jeûner. Il a dit « Lorsque vous jeûnez, non si vous jeûnez » Matthieu 6:16. Le Seigneur s'attendait à ce que le jeûne fasse partie de la marche normale de ses disciples avec lui. Les mauvais jeûnes, Ésaïe 58, il y a un jeûne auquel l'Éternel ne prend point plaisir? C'est celui que le Seigneur condamne lorsqu'il dit « Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires ?» Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le haineux, te détourne pas de ton semblable, Ésaïe 58. 3-7. Le jeûne ne peut jamais remplacer la justice. Le jeûne doit uniquement être fait pour le Seigneur. Il faut que celui qui jeûne s'assure qu'il est dans une nécessaire communion avec le Seigneur. Entreprendre un jeûne, tout en entretenant des péchés non confessés, est une perte de temps, car un tel jeûne ne peut pas satisfaire le cœur de Dieu. On ne doit pas utiliser le jeûne pour fuir les aspects pratiques fondamentaux de notre vie. S'il y a du travail à faire, il ne faut pas que j'évite de le faire sous prétexte que je suis en train de jeûner. Il faut que je sois en bonne relation avec mon prochain pour que mon jeûne puisse toucher le cœur de Dieu. Page 131. On ne devrait pas entreprendre un jeûne pour en faire une exhibition ou pour glorifier la chair d'une façon ou d'une autre. Il faut que le jeûne soit fait pour la gloire du Seigneur et pour sa gloire seule. Que le Seigneur nous conduise davantage dans le vrai jeûne et qu'il nous délivre du mauvais jeûne. Amen. Différents types de jeûnes, on peut distinguer trois sortes de jeûnes dans la parole. Il y a d'abord le jeûne absolu. Dans le jeûne absolu, on ne prend ni nourriture ni eau. Ninive connut ce jeûne, de même que Moïse. Ce jeûne sans eau ne devrait normalement pas dépasser 72 heures. Deuxièmement, il y a le jeûne complet. Pendant un jeûne complet, on peut prendre de l'eau et rien d'autre. Pas de lait, ni de thé, ni de fruits, rien d'autre que l'eau. C'est le jeûne normal pour la plupart des croyants. Il peut durer 40 jours. Troisièmement, il y a le jeûne partiel. C'est ce jeûne que Daniel entreprit pendant 3 semaines. Il dit « Moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. » Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, Daniel 10, 2. Un jeûne partiel peut aussi signifier que l'on prend un repas léger par jour au lieu des 3 repas normaux quotidiens. Les avantages du jeûne partiel sont les suivants. Il peut s'étendre sur des semaines, la personne qui jeûne garde de la force pour accomplir ses activités normales et il n'y a pas la faiblesse entraînée par un jeûne complet qui rend souvent la prière difficile. Le grand problème est la discipline nécessaire pour prendre un repas léger et non pas un repas lourd qui remplace les 2 autres repas. Personnellement, j'encourage tous les adorateurs de Christ à pratiquer régulièrement ces 3 sortes de jeûnes afin de pouvoir aisément pratiquer n'importe lequel d'entre eux, en fonction du besoin. Page 132. Commencer un jeûne, chaque croyant devrait jeûner d'une façon régulière. Dans notre assemblée, la plupart des croyants jeûne 2 fois par semaine. Il y a un jour pendant lequel toute l'Église jeûne pour le pays. Un 2e jour de jeûne est réservé aux besoins personnels du croyant pour son édification, son ministère ou la victoire dans l'un des combats qu'il traverse. Le problème est la manière de commencer un jeûne. Nous te recommandons de commencer à une petite échelle, par exemple par un jeûne de 12 heures. Pour t'y habituer et tu pourras le faire à plusieurs reprises, pendant des semaines et peut-être des mois. Au début, tu auras l'impression que tout ton organisme se rebelle et tu auras le sentiment que tout ton être va se briser si tu ne romps pas ton jeûne. Ne cède pas. Même les cris aigus de tes entrailles ne seront pas nécessairement les symptômes d'une réelle famine, mais tout simplement la réponse psychologique d'un organisme qui a développé l'amour de la nourriture. Résiste. Plus tu résisteras, plus tu parviendras à jeûner facilement la fois suivante. J'aimerais t'assurer que tu ne mourras pas de faim à cause d'un jeûne. Tu le vérifieras en t'abstenant de manger et cette expérience te rendra plus heureux. Préparer un jeûne, le point le plus important en ce qui concerne la préparation d'un jeûne est la préparation spirituelle dans la prière. voici quelques sujets à considérer et pour lesquels il faut prier, en vue de préparer un jeûne. Le but du jeûne détermine avec le Seigneur le but de ton jeûne, dans la prière. Reçois de lui des objectifs très clairs que tu vas poursuivre dans la prière pendant le jeûne. 2. La longueur du jeûne reçoit du Seigneur dans la prière, quand commencer le jeûne et quand l'arrêter? Il a promis de te guider et il le fera sûrement si tu le lui demandes. Page 133. 3. La prière pendant le jeûne, à demander, reçoit du Seigneur un fardeau profond qui ne pourra être déchargé que par une prière intense. B. Demande et reçoit du Seigneur un esprit de persévérance dans la prière, même lorsque le corps ne veut pas coopérer avec l'esprit. 4. Prends une position victorieuse dans la prière et A. Constitue-toi des réserves spirituelles. B. Répond aux besoins du Seigneur. C. Répond aux besoins du corps de Christ. D. Réclame les perdus pour qu'ils entrent dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. 5. Reçois du Seigneur, alors que tu t'attends à lui, une révélation qui t'est spécialement destinée. 6. Reçois de lui un esprit de joie pendant tout le jeûne. 7. Demande au Seigneur A de t'accorder de la force physique pendant le jeûne. B d'enlever tout désir de nourriture pendant le jeûne. C de te donner la capacité de dormir avec l'estomac vide. D de te donner la sagesse de rompre le jeûne lorsqu'il sera terminé, sans dommage pour le corps. E de te permettre de conserver ce que tu as gagné pendant le jeûne. Rompre un jeûne, un long jeûne, et même tout jeûne devrait être rompu dans un esprit de prière et avec prudence. Je suggère ce qui suit 1. Et une séance spéciale d'action de grâce et de louange au Seigneur pour ton jeûne. Ne te précipite pas à manger sans avoir ce moment spécial de prière. La tentation de sauter sur la nourriture sera là, mais, je t'en prie, maîtrise-la. Page 134. 2. Fais attention à ce que tu vas manger. Un verre de jus est la meilleure façon de rompre un jeûne. Ne mange pas de plats lourds tout de suite après. Il sera bon d'attendre 3 à 4 heures pour manger ensuite quelque chose de liquide et de léger, comme une bouillie Quaker Oats, crème ou chose semblable. Tu te sentiras beaucoup mieux si tu attends jusqu'au lendemain pour commencer à manger de la nourriture solide. 3. Ne mange pas à l'excès après un jeûne. La gloutonnerie est un péché fatal. Utilise la période qui suit le jeûne pour t'établir un nouveau régime qui glorifiera Dieu et qui te donnera un corps plus sain. 4. Maintiens l'esprit de prière que tu as développé pendant le jeûne pour continuer ta marche avec Dieu. Le fondement biblique pour les intercesseurs qui jeûnent pour le pays dans notre pays, les croyants jeûnent et prient tous les mercredis pour tous les aspects de la vie nationale, pour ses dirigeants, sa prospérité, sa vie spirituelle et tout ce qui a trait aux intérêts du Seigneur Jésus. Quoique ce ministère ait été reçu par une révélation directe du Seigneur, il est clairement enraciné dans la Bible. L'Éternel a dit quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 13-14. Notre pays a péché. Notre pays a été jugé. Nous ne pensons pas que tout le monde dans notre pays ait actuellement cru au Seigneur Jésus. Cependant, les croyants sont appelés par Dieu à s'humilier dans le jeûne et à invoquer le nom du Seigneur, à chercher la face de Dieu et à se repentir. Nous avons fait cela et nous continuons à le faire. Nous continuerons jusqu'à ce que tous les pécheurs de notre pays reçoivent le pardon et jusqu'à ce que le pays soit guéri de toutes ses maladies spirituelles, physiques, sociales, économiques. Page 135. Nous croyons que l'intercession dans le jeûne devrait devenir un ministère exercé dans tous les pays où se trouvent des chrétiens et où le péché et les forces des ténèbres continuent encore à régner. Publier un jeûne, nous vivons des jours sombres? Nous vivons à la fin de cet âge? Nous devons recevoir la visitation de Dieu, soit dans l'amour et la bénédiction, soit dans le jugement. C'est merveilleux lorsque quelqu'un jeûne et cherche le Seigneur. Cependant, le jeûne individuel ne sera pas suffisant. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut publier un jeûne. Il faut que nous appelions toute l'Église à jeûner et à prier. Dans l'Ancien Testament, dans les jours difficiles, les dirigeants publiaient un jeûne. En fait, la Bible ordonne parfois de publier un jeûne. La Bible dit sacrificateur, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteur de l'autel. Venez, passez la nuit revêtu de sacs, serviteur de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, écriez à l'Éternel Joël 1:13-14. Nous aussi, dirigeants de l'Église du Seigneur Jésus, nous sommes appelés à faire de même. Le jeûne devrait être organisé au niveau des assemblées locales, des villes, des districts, des provinces et des nations, et entièrement conduit par la grâce de Dieu. Cette responsabilité repose sur les dirigeants spirituels. Que le Seigneur leur accorde la grâce de s'en acquitter. Les temps d'ignorance sont passés dans le passé, on savait peu de choses sur le jeûne. Ainsi, nous pouvions continuer à manger en oubliant que nous étions en territoire ennemi. À présent, ces jours d'ignorance sont passés. Nous savons ce que nous devrions faire et ce que nous devons faire. Page 136. Les temps d'ignorance sont passés et Dieu invite tous ceux qui sont avides de la nourriture, tous les gloutons, à se repentir, à abandonner l'amour de la nourriture et à s'engager dans le jeûne et la prière. Veux-tu te repentir? Veux-tu te repentir maintenant? Un dernier mot, lorsque tu jeûnes, il te semble que tu as fait tout ce que tu pouvais faire et qu'il n'y a plus rien qu'il était possible de faire et que tu n'aies pas fait. À son niveau le plus profond, le jeûne te donne le droit de demander à Dieu que des miracles soient accomplis, et ils s'accomplissent effectivement. Page 137, chapitre 12. Priez par l'Esprit, priez dans l'Esprit toute prière, qui a son origine en Dieu et communiquée à l'homme par le Saint-Esprit, qui l'aide alors à adresser cette prière au Seigneur. Une telle prière est une prière dans ou par l'Esprit. C'est une prière dont l'étendue et les limitations sont fixées par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus priait toujours dans l'Esprit. Dieu écoute et exauce toute prière faite dans l'Esprit. Dieu est l'auteur de toute véritable prière. Il communique à l'homme, par son Saint-Esprit, les pensées qu'il aimerait voir s'exprimer dans la prière. Le Saint-Esprit aide l'homme, qui est semblable à un vase, à retourner ses pensées à Dieu par la prière. La Bible nous ordonne de prier dans l'Esprit, ou par l'Esprit fait en tout temps, par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, Éphésiens 6:18. Priant par le Saint-Esprit, Jude 20. Le Seigneur Jésus priait par l'Esprit et chaque fois, Dieu l'écoutait et l'exauçait. Prier avec l'Esprit, il y a un aspect de la prière par l'Esprit, qui est la prière avec l'Esprit. La prière avec l'Esprit est cet aspect de la prière par l'Esprit, qui est l'activité spéciale de l'Esprit humain. Nous pouvons la représenter ainsi: prier par l'Esprit, le Saint-Esprit revient à prier par l'Esprit, avec l'intelligence de l'homme, prier par l'Esprit avec l'Esprit de l'homme. L'apôtre Paul dit: si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai. Page 139. Par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens 14:14-15. Prier avec l'Esprit, c'est prier en langue, prier dans une langue inconnue. La jeunesse de la prière, avec l'Esprit, il n'y a aucune indication montrant que des croyants priaient avec l'Esprit dans l'Ancien Testament. Il semblerait que tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament et au début du Nouveau Testament priaient toujours avec leur intelligence. Le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples furent baptisés dans le Saint-Esprit, ils reçurent le don de parler en d'autres langues. Plus tard, chez Corneille, lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, ils eurent la même manifestation. La Bible dit comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu, Actes 10:44-46. À Éphèse, après avoir rebaptisé les disciples de Jean maintenant convertis, Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient, Actes 19:6. La prière avec l'Esprit commence au baptême dans le Saint-Esprit, car lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, il manifeste souvent cette descente sur l'individu en lui accordant de recevoir instantanément le don de parler en d'autres langues. L'utilité de la prière avec l'esprit 1. Prier en langue avec l'esprit, c'est s'adresser à Dieu. La Bible dit en effet, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » 1 Corinthiens 14, 2. La véritable prière, c'est parler à Dieu. On peut le faire en priant en langue. Il y a des moments où notre intelligence est incapable de comprendre les pensées et les buts profonds de Dieu qui sont mystérieux pour nous. Dans de telles circonstances, le Saint-Esprit révélera ce mystère de Dieu à l'esprit humain sans l'intervention de l'intel. Page 140. L'intelligence humaine. L'esprit humain présentera alors à Dieu ses requêtes sous la forme d'une prière dans une autre langue et Dieu les exaucera. 2. La prière avec l'esprit permet l'édification de soi-même. La Bible dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même » 1 Corinthiens 14, 4. Lorsque quelqu'un prie dans une autre langue, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il s'édifie profondément lui-même. Il est béni par le débordement de la prière qu'il adresse au Seigneur. Peut-être a-t-il commencé un moment de prière sans connaître beaucoup de joie et de liberté, mais lorsqu'il va se mettre à prier en langue, son esprit sera tellement édifié que la joie et le débordement intérieur qui lui manquaient au début de la prière seront maintenant sa part. En fait, si quelqu'un commençait à prier en langue et continuait à le faire, il serait débordant de vie. Une raison pour laquelle bon nombre de croyants sont spirituellement desséchés est qu'ils ne passent pas assez de temps en privé à s'édifier eux-mêmes en priant avec l'esprit. L'apôtre Paul dit qu'il préférait dire 5 paroles avec son intelligence afin d'instruire les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. 1 Corinthiens 14, 19. Mais il a aussi dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous » 1 Corinthiens 14, 18. Quand donc parlait-il en langue, plus que tous les Corinthiens ? Cela devait être dans sa vie privée. Considérant ses énormes responsabilités spirituelles et son engagement évident à prier, il devait passer beaucoup de temps dans la prière. Il y avait certainement des moments où il ne pouvait plus continuer à prier avec son intelligence. Il changeait alors sa manière de prier et continuait à prier avec l'esprit. C'est alors que le Saint-Esprit imprimait dans l'esprit de Paul les besoins des églises et son esprit les transformait en prière dans une langue inconnue, adressée au Père. Parfois, cela pouvait durer des heures. Il réalisait que pendant cette prière avec l'esprit, son intelligence demeurait passive et stérile. Il priait donc à la fois avec son intelligence et avec l'esprit. Il dit « Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence » 1 Corinthiens 14, 15. La prière avec l'esprit rafraîchit le croyant. Ce faisant, il se donne lui-même au Seigneur dans la prière, il est édifié et reçoit la... Page 141. Capacité de continuer à prier pendant une période beaucoup plus longue qu'il n'aurait été possible auparavant. Une langue de prière, la prière avec l'esprit, est l'utilisation d'une langue de prière qui est reçue du Seigneur sans être apprise. Je prie en anglais et en d'autres langues. J'ai appris à parler ces langues et j'utilise mon intelligence pour parler au Seigneur des choses que je comprends. Dieu, dans sa bienveillance, donne une autre langue de prière que j'appellerai la langue de prière inconnue. Cette langue m'est inconnue, mais Dieu la connaît. Cela permet donc à celui qui a reçu du Seigneur cette langue de prière inconnue de doubler le rendement de sa prière. La personne commence à prier. Elle utilise son intelligence pour bénir le Seigneur, le louer et le remercier. Elle utilise son intelligence pour intercéder, supplier et réclamer. Puis elle est fatiguée et épuisée dans l'intelligence. L'intelligence est épuisée, mais l'esprit ne l'est pas. Alors le saint qui prie a recours à sa langue de prière inconnue et continue à prier Dieu ainsi. Il est donc capable de passer de la langue connue à la langue inconnue, de l'intelligence à l'esprit. Lors de chaque changement, il est amené à un nouveau point d'où il peut continuer. C'est alors comme s'il priait avec un partenaire de prière. Lorsqu'il est fatigué, le partenaire prend la relève pour prier à son tour et ainsi de suite. Combien merveilleuse est cette capacité que peut avoir une personne de prier avec la force et la vigueur de deux personnes. Combien merveilleux est ce doublement du rendement de la prière par la même personne. Combien cette association avec le Saint-Esprit dans la prière est merveilleuse. La profondeur de la prière avec l'Esprit pour que le Saint-Esprit révèle à notre intelligence des choses qui doivent devenir des sujets de prière. Cela dépend souvent en grande partie de notre capacité de compréhension. Cela veut dire que, lorsque nous utilisons notre intelligence dans la prière, Dieu ne peut pas nous utiliser au-delà de notre capacité de compréhension. C'est une limitation très sérieuse, puisque nous savons que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que ses voies sont au-delà de notre compréhension. Comment Dieu peut-il obtenir là? Page 142. Coopération de l'homme dans la prière pour des choses qui dépassent l'intelligence de l'homme? La réponse se trouve dans le don d'une langue de prière. Les secrets profonds appartiennent à Dieu. La langue est celle de Dieu, cependant il travaille à travers l'homme en utilisant l'esprit de l'homme afin que celui-ci ne soit pas laissé de côté. Lorsque l'on prie en langue, on prie pour des choses profondes. La Bible les appelle mystères en esprit 1 Corinthiens 14, 2. Bien que l'homme ne comprenne pas ce mystère, en priant avec l'esprit, il accomplit une coopération indispensable avec Dieu. Cela est tout simplement merveilleux. Lutter avec l'esprit, contrairement à ce que croient certains à tort, la prière avec l'esprit n'est pas une simple expression extatique, quoi qu'il en soit parfois ainsi. Bien souvent, c'est un combat avec l'esprit. Parfois, un croyant peut se trouver dans une épreuve difficile ou une tentation, ou sur le point de se précipiter sur une route, où un accident l'attend. C'est alors que notre esprit est troublé. On est incapable d'expliquer cela. Et, en se retirant dans une chambre pour prier, on se met soudain à prier avec l'esprit dans une lutte violente, comme si l'on était devant le diable lui-même. On est effectivement en train de lutter dans une langue de prière, tout en gémissant et en pleurant. Cela peut durer quelque temps. Peut-être 20 minutes, ou même 2 heures. Parfois cela peut durer 4 heures, pendant que le combat se déroule dans le monde invisible. On est alors trempé de sueur, et l'on sait que l'on est soutenu dans ce conflit, par une présence surnaturelle. Pendant que l'on continue à intercéder pour le croyant dans la prière, le Seigneur se met à l'œuvre, frustre les desseins de l'ennemi, et libère le saint. Mon ardent désir est que Dieu fasse lever de nombreux saints mûrs, capables de s'engager dans une telle prière avec l'Esprit. Parce qu'ils sont très souvent rares, le diable cause beaucoup de dégâts au sein de l'Église dans le monde invisible. Il se peut que tu rencontres parfois un frère dans le Seigneur et que tu ressentes dans ton esprit que tu devrais prier pour lui. Cependant, ne connaissant pas son besoin, tu es incapable de... Page 143. Prier avec ton intelligence. Que faire? Tourne-toi vers le Saint-Esprit. Il connaît les besoins du frère. Peut-être ne veut-il pas que tu les connaisses, tout en voulant t'utiliser pour secourir ce frère dans son besoin. C'est alors qu'en commençant à prier pour lui, le Saint-Esprit te conduit à prier avec l'Esprit. Il communique les besoins de ce frère à ton esprit et non pas à ton intelligence, et tu pries alors dans une langue inconnue. Chanter au Seigneur avec l'Esprit, nous savons tous comment chanter au Seigneur avec notre intelligence. C'est une façon de louer le Seigneur? Mais pour plusieurs croyants, leur expérience s'arrête là. Ce n'était pas le cas de Paul. Ce ne devrait pas non plus être notre cas. Il dit « Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence » 1 Corinthiens 14, 15. Nous devons faire de même. Le Seigneur aime les chants que nous lui chantons avec notre intelligence. Il attend de recevoir ce que nous devrions lui chanter avec l'esprit pour compléter notre chant. Où sont ces chants dans ta vie? L'apôtre ne se contentait pas seulement de chanter avec l'esprit. Il louait, bénissait et rendait grâce avec l'intelligence et avec l'esprit. Avec son intelligence, il rendait grâce au Seigneur pour les bénédictions du Seigneur qu'il pouvait citer l'une après l'autre. Cependant, il y avait plusieurs autres choses que le Seigneur avait faites pour lui, trop nombreuses pour l'être énumérées, mais qu'il ne connaissait pas exactement. S'il ne rendait pas grâce pour ces choses, il serait passé pour un ingrat. La seule façon de résoudre ce problème était de rendre à Dieu des actions de grâce et de le louer avec l'intelligence pour les choses connues et avec l'esprit pour les choses inconnues. Paul faisait cela. Nous aussi, nous devons faire de même. En conclusion, des possibilités illimitées sont ouvertes au croyant qui a reçu du Seigneur une langue de prière inconnue. J'encourage tous les croyants à demander et à recevoir ce don du Seigneur. Nous n'avons pas le choix dans ce domaine. Est-ce un problème pour toi? Ne peux-tu dire des mystères au Seigneur dans la prière? Est. Page 144. C'est un problème de ne pouvoir t'édifier toi-même, chanter, louer, intercéder, etc. avec l'esprit. L'apôtre Paul dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez » 1 Corinthiens 14, 5. Commençons par demander le don des langues qui nous aidera à accomplir notre tâche la plus importante sur la terre, c'est-à-dire la prière. Ayant reçu ce don, allons plus loin et aspirons au don de prophétie. Par expérience personnelle, l'apôtre Paul dit « Je désire que vous parliez tous en langue », c'était le désir de l'apôtre. Faut-il que son désir soit vain ? C'est aussi mon désir pour toi. Ne le laisse pas insatisfait. À ceux qui ont reçu une langue de prière, j'apporte un mot d'encouragement. Utilisez-la. Utilisez-la nuit et jour. Que cette prière vous aide à atteindre des hauteurs et des profondeurs inaccessibles. Utilisez-la pour remporter des victoires pour Dieu. Dieu vous a donné ce don pour que vous puissiez vous en servir. Ne le laissez pas s'endormir. Ne l'enterrez pas. Utilisez-le. Plus vous l'utiliserez, plus le Seigneur vous conduira dans de nouveaux et plus profonds domaines dans la prière et la vie en lui. Allez de l'avant, exercez votre ministère de prière et que le Seigneur vous bénisse. Page 145, chapitre 13. L'Église locale en prière -1. L'Église locale naît dans la prière ? Lorsque des hommes payent le prix demandé par Dieu, le Saint-Esprit agit et des âmes naissent de nouveau. S'ils continuent à payer le prix, le Saint-Esprit rassemble ceux qui sont nés de nouveau et l'Église locale naît. Ainsi, dès son commencement même, nous pouvons résolument affirmer qu'il ne peut y avoir d'Église locale sans prière. Mais il ne suffit pas que l'Église locale naisse. Pour qu'elle continue en tant qu'organisme vivant, il faut que ses membres la portent quotidiennement dans la prière. La prière est donc une activité fondamentale de l'assemblée locale. Les premiers dirigeants de l'Église à Jérusalem en firent leur plus haute priorité. Ils diraient nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole Actes 6, 4. L'apôtre Paul écrivait ses épîtres aux Églises en sachant qu'elles étaient des centres de prière.